Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans cet épisode, vous allez entendre un document exceptionnel. On ne peut pas vous dire où ni comment cet entretien a été réalisé. Vous allez entendre un témoin protégé. Elle s'appelle Sonia. C'est la femme qui a permis d'arrêter Abdelhamid Abaoud, l'un des terroristes du 13 novembre. Peut-être le commanditaire des attentats. Bonne écoute. Sonia, c'est un témoin exceptionnel. Ça n'a pas été facile de la convaincre de parler, ni de convaincre son avocate de laisser Sonia nous parler. C'est l'un des personnages clés des attentats et de l'enquête qui va suivre les attentats. Et j'ai été très surpris quand je l'ai vue, parce que j'ai vu arriver une femme pleine d'humour, avec le poids qui pèse sur ses épaules, arriver à se détacher de la menace, aller fumer sa clope dehors, revenir en se marrant. Et je trouvais que, en fait, c'est quelqu'un qui a un courage qui a été tellement, tellement déterminant. C'est un exemple.
J'ai dit à la police, Asna, elle va aller là-bas. S'il vous plaît, vous la tuez pas. Il m'a dit non, c'est pas notre cible. J'entends les derniers mots d'Asna à la télé, comme tout le monde. Je pense qu'elle avait décidé de mourir.
Trois explosions entendues à proximité de l'enceinte du Stade de France et d'autres fusillades seraient en cours en ce moment même à Paris. On va essayer évidemment.
Le 11e et aux abords du Stade de France.
Ouais, François, on est en train d'essayer de comprendre ce qu'il se passe. Bon, on sait qu'en tout cas, il y a plusieurs sites, c'est certain.
L'enquête en France, à présent, une semaine après les attentats, qui se concentre sur un homme, Abdelhamid Abaoud, 28 ans, tué dans l'assaut mené mercredi à Saint-Denis, présenté comme l'organisateur des attentats du 13 novembre.
Cette femme, que la presse a appelée Sonia, a permis l'élimination d'Abdelhamid Abaoud. Pour cette raison, sa vie est aujourd'hui menacée.
Sonia aide les gens. Elle aide les gens, elle a le souci de ceux qui l'entourent, le souci de prendre de leurs nouvelles, de savoir comment ils vivent, comment ils vont, à tel point que le soir, elle fait des maraudes. Elle va donner à manger à des gens qui sont dans la rue, leur donner des vêtements. C'est une femme généreuse qui donne des coups de main, qui donne des coups de main à des gens qu'elle ne connaît pas, forcément. Elle a le sens du contact et en plus, elle héberge des gens, des personnes qui sont dans le besoin. Et parmi ces personnes, il y a Asna, c'est une fille qui vit chez elle depuis déjà 7 ans.
C'est une petite sœur de cœur, voire une fille de cœur, plus qu'une copine quand même.
Elle l'héberge, mais elle est aussi sa confidente. C'est elle qui lui parle, c'est elle qui veille sur elle.
J'ai une sœur qui m'appelle pour me dire qu'elle connaît une jeune fille qui est à la rue. Est-ce que je peux l'héberger quelque temps? Comme tout le monde sait que j'héberge tout le monde, et j'accepte. Je l'ai connue dans un moment où elle était dans une détresse. Elle n'avait pas de lieu où habiter, elle était perdue, elle était drôle, elle était folle, ça c'est sûr, à 100%, elle était imprévisible. Elle n'a pas eu une vie facile, elle a beaucoup souffert, et puis la vie ne lui a pas fait de cadeau non plus. Comme j'aime bien aider les gens, et bien je l'ai recueillie sous mon toit. Elle a un petit sac avec elle, elle est dans la vingtaine, pas plus, ça se voit que c'est une jeune, elle est paumée. Elle est détruite par la vie. Au début, quand on tend la main à quelqu'un, on n'est pas forcément obligé de le brusquer, de lui poser tout un tas de questions. On le laisse déjà s'installer, prendre des repères. Et puis après, on commence un peu à discuter pour voir d'où elle vient, qu'est-ce qui l'a amenée à se retrouver dans cette situation-là. En fait, j'ai pris mon temps avec elle, on va dire. Elle me raconte que elle a connu les foyers, que sa mère l'a mis dehors, que son père c'est pareil, qu'elle vit d'un squat à un autre, qu'elle en manque d'amour. Elle a de la famille, mais pas d'amour familial, pas de liens familiaux établis. Elle a habité chez moi, elle est retournée dans ses petites amourettes.
Elle repart, elle revient.
Enfin, moi, j'avais des règles qu'elle devait respecter. Et que forcément, elle ne respectait pas souvent. C'était quelqu'un qui aimait la vie.
Et à chaque fois, Sonia accepte de la recueillir à nouveau, de l'aider.
Qui aimait le risque aussi. Les soirées alcoolisées, la drogue. Elle jouait à la roulette russe. Elle jouait avec sa vie.
Ça fait 7 ans qu'elles sont ensemble. Elles se connaissent tellement bien. et un jour Asna change. En un mois, elle bascule.
Ça faisait un mois, elle lui disait qu'elle n'arrivera pas à 27 ans. Je me rappelle, j'avais acheté une casquette du PSG à mon fils. Et mon fils, il m'a dit « je ne vais pas la porter ». Asna lui a dit « je te la rachète ». Donc elle lui avait payé la casquette. Je lui ai dit à mon fils « va prendre l'argent quand même, déjà, elle n'en a pas ». Elle m'a dit « non, c'est pas grave, de toute façon, il va la récupérer parce que je passerai pas mes 27 ans et c'est l'héritage que je vais te donner ». Et on avait rigolé de ça, il dit « un héritage, une casquette ». Asna, t'es jeune, quoi. T'as toute la vie devant toi. Quand je la récupère pour la dernière fois, elle est restée peut-être un an et demi avec nous avant les attentats. Mais à vivre vraiment avec nous. Elle avait changé puisqu'elle s'était niqabée. Elle avait mis tout le costume, là. Des talibans, là. Oh, bah, c'était plus que le voile. On voyait que les yeux. Moi, je lui ai demandé de retirer son costume. Hein. Non, moi, j'ai rigolé. Je lui ai dit, tu passes d'un extrême à un extrême. Faut arrêter, là. Non, mais j'ai rigolé. Je lui ai dit, on dirait Dark Vador. Arrête, enlève ça. C'est quoi, ça? Elle arrive à la maison en niqab. Après, elle me dit, je peux retirer juste devant les garçons parce que c'est comme mes frères. Mais moi, j'avais des visites, j'avais des amis qui venaient, elle le remettait parce qu'il fallait pas qu'il la... Non, mais je lui ai dit, non, mais tu t'arrêtes, là. J'ai essayé de comprendre, mais j'ai compris, en fait. Elle m'a expliqué, hein. C'est par rapport à son petit ami qui lui a dit de retourner chez ses parents parce qu'il voulait une femme pieuse. Donc moi, je lui dis, je comprends pas parce que quand même, t'as vécu 2 ans avec lui, vous avez fait ce que vous avez à faire et bizarrement, là, maintenant, il veut... Moi, quand j'ai vu ça, je lui dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle avait le chic pour se ramener des problèmes. Et un jour,
récupéré par Patrice Evra, qui redonne encore.
Elle me ramène un gros problème.
Aux prises avec Müller, finalement le ballon encore une fois négocié par Martial pour la mettre derrière.
Nous regardons le match de foot quand il y a eu les premiers attaques, quoi. J'ai dit à mon fils, on dirait qu'il y a un truc qui se passe.
22h16, voilà ce qu'on peut dire à l'instant où l'on parle. Lors de ce match France-Allemagne, des explosions.
Et quand le match s'est terminé,
à l'extérieur du Stade de France, 3 explosions,
et ben là,
des fusillades.
Là, on découvre l'ampleur des dégâts.
Le 10e, le 11e et aux abords du Stade de France.
Ouais, François, on est en train
21h50, je me pose en plateau et j'y reste la moitié de la nuit.
Il y a plusieurs sites.
Le mot, je l'avais entendu.
Premier site, le Stade de France, parce que ce
mais je ne savais pas que ça pouvait exister.
Dans le même temps, dans les 10e et 11e arrondissements de Paris, là, ce sont des coups de feu.
Des attaques multisites.
Ces deux événements, dans deux lieux différents, dans le contexte que nous connaissons, on peut pour l'instant tout craindre.
On est dans une action organisée par des gens qui ont réfléchi, dont on saura plus tard comment ils se sont organisés et qui vont faire 131 victimes. Et alors qu'on est en plateau, que les invités arrivent, qu'on déroule les événements, au fur et à mesure qu'on les apprend, nos reporters sont sur place, les infos commencent à arriver, le président va sur place. Nous, on est là à commenter tout ça en direct et de l'autre côté de la télé, il y a Sonia et Asna qui nous regardent.
On prend plein des attentats-ci, des attentats-là. Elle n'était pas comme d'habitude de toute façon. Elle était toute excitée, à la fois elle avait de l'excitation, du souci, elle n'était pas très bien. J'ai commencé à m'inquiéter, ma sœur était sur Paris, ma fille était sur Paris. Elle était joyeuse. Et comme je suis quelqu'un de très émotif et que j'arrive pas à cacher mon émotion, j'ai versé une larme et elle m'a dit « mais ils allaient tous mourir, c'est tous des mécréants ». Là, on a commencé à se disputer, je l'ai grondé, je lui disais des choses qui ne se disent pas, qu'il n'y a pas de mécréants, que c'est pas comme ça, faut pas parler comme ça. Et je lui dis, mais tu sais que ma fille est à Paris et qu'elle est peut-être parmi ces gens que tu dis mécréants. J'ai cherché ma fille partout, elle a répondu au bout de je sais pas combien de temps, elle pleurait au téléphone. Elle me dit qu'elle va sortir, je lui dis, faut pas sortir, tu vois pas ce qui se passe dehors. C'est dangereux, faut pas sortir. Y a des fous qui sont dans Paris, qui tirent sur tout le monde, qui tuent des gens, faut pas sortir. Et là, elle sort quand même. Le samedi matin, quand je me réveille, je me dis, ben, ça va, ma fille est rentrée, ma soeur est rentrée. Je regarde la télé, c'était l'horreur. Je décide d'aller faire des courses pour nous changer les idées. Et je cherche Asna, Asna n'est pas là, elle n'est pas rentrée. Je l'appelle. Et elle me dit que ben, elle va arriver. Elle finit par arriver vers les coups de 16h. Je lui dis, on va aller faire les courses. Et on va au centre commercial et il y avait des agents de sécurité partout. Et il demande à fouiller les sacs. Elle ne veut pas qu'il fouille son sac. Elle refuse d'ouvrir son sac. Mais pourquoi ? Moi, je lui dis, mais pourquoi ? Il y a des gens qui viennent de tuer des gens innocents. Le monsieur fait son travail. Je lui dis, il faut ouvrir ton sac. À moins que tu aies des choses à cacher. Je commence à avoir des doutes. Tout en faisant les courses, je lui dis, Asna, rassure-moi, j'espère que t'es pas mêlée à ce genre de choses. Et peut-être que tu sais quelque chose. Elle me dit, ah non, pas du tout. Je sais pas. Et je me souviens qu'elle nous avait parlé à l'époque, au tout début où je l'avais accueillie quelques mois plus tard, une histoire d'un cousin d'elle en Syrie. Elle nous a fait voir une vidéo qui traînait des cadavres.
La vidéo dans laquelle on voit quelqu'un traîner des cadavres, c'est Abdelhamid Abaoud, qui est en Syrie, qui est dans un pick-up, on s'en rappelle. Il est filmé et il dit en Seine-Saint-Denis ou en France. Je traînais des jet skis, là je traîne des cadavres.
Et
il éclate de rire. Et c'était vraiment son cousin.
J'ai su le dimanche en fait. Que ce mec-là existait vraiment. On rentre, elle me dit, je vais sortir ce soir, je vais aller voir un copain à moi. Je lui dis, Asna, t'exagères, il faut pas sortir tout le temps comme ça. Je lui dis, mais en fait, t'as pas peur de dehors. Moi, je suis terrorisé. Et je veux que personne ne sorte, je ne veux pas que ça se reproduise. Elle sort, elle rentre le petit matin, dimanche matin, et je vois qu'elle est pas bien. On décide d'aller à Saint-Denis se promener, et elle vient, mais... avec beaucoup de difficultés. Je lui dis, mais il y a quelque chose qui te tracasse, Asna, il va falloir que tu me dises c'est quoi. Elle m'a dit, non, rien, je suis pas bien, c'est tout. On rentre à la maison, et puis son téléphone sonne. C'était un numéro bizarre. Je la vois sauter de joie, et elle me dit, regarde, c'est quoi cet adjudicatif? Je lui dis, mais ça, c'est un pays de l'étranger, c'est de la pub, ça raccroche, ils vont te bouffer ton crédit, tu vas te faire escroquer. Et non, elle me dit, non mais il faut que je te le passe, écoute bien et tout, en français et en arabe. Parce qu'à un moment donné, lui parler en arabe, elle comprenait pas trop. Moi, je comprends très bien l'arabe. Donc je traduis. Et le mec me dit que c'est son cousin qui a donné le numéro, qu'il faut qu'elle aille le récupérer. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce traquenard et tout? Je dis, ah, c'est quoi ça? Et elle me dit, en fait, c'est un petit cousin de 17 ans qui est tout seul, qui a nulle part où aller, il faut l'héberger, il faut aller chercher. Elle reprend le téléphone et puis moi je lui dis mais tu vas aller chercher où ton cousin, t'as pas d'adresse et comment sait-il que c'est quelqu'un de l'étranger qui t'appelle pour te dire que ton cousin il est dans des problèmes, qu'il est à la rue en France. Et je dis en plus avec ce qui se passe dehors quand même, bon après je lui dis c'est un mineur quoi, il a l'âge d'un de mes fils donc on va pas le laisser dehors. Par contre, je lui dis s'il a fait une bêtise, parce que j'avais un doute, je la voyais elle était pas bien, je dis par contre s'il a fait une bêtise, on l'amène directement au commissariat. Et là elle m'a dit oui. Et quand elle m'a dit oui, ça m'a rassuré. J'ai dit, bah, c'est vraiment un gamin de 17 ans qu'on va chercher. Donc on part. Parce que quand même, au bout d'une heure et demie, il nous a donné l'adresse. Il doit être 20h, quelque chose comme ça, 19h30, 20h. Je trouvais que c'était vraiment long. Vu la conjoncture des choses, je comprends mieux pourquoi maintenant. Il voulait pas donner l'adresse. Mais il l'a quand même donné. Nous voilà partis, alors moi comme d'habitude, hein, l'européenne bien civilisée avec ma petite doudou de mon petit jean, ma petite cigarette. Et elle, ça m'a apostrophié, j'ai dit mec, elle a mis son niqab. Et je lui ai demandé pourquoi tu t'habilles comme ça. Non, parce que dans la famille, on est pratiquants, et puis je voudrais pas qu'ils me voient en jean... et puis les cheveux lâchés comme ça se fait pas. On est très religieux, je dis bah chez moi aussi, on est des gens croyants, mais on vit en Europe, on est européanisé. J'ai une adresse précise. Une adresse précise qui me ramène dans un rond-point. Et là au rond-point, j'ai dit c'est une blague. Mais Asna, je dis, tu vois pas qu'on se fout de ta gueule. Et là, le mec reste au téléphone continuellement avec elle, il veut pas raccrocher. Et je lui dis, mais le garçon, là, il raccroche pas, il y a rien, on nous a rond-point. Nous, quand on est arrivé au premier rond-point qu'ils avaient donné, l'adresse, il a dit de garer le véhicule et de marcher. On garde la voiture et le mec nous dit d'avancer tout droit, toujours tout droit. Il lui parle au téléphone, donc il y a quelqu'un qui nous voit, c'est obligé. Il dit crier 10-10. Pourquoi 10-10? Je sais pas. Crier 10-10. Crie 10-10. Toujours tout droit, avance toujours tout droit. On marche comme des connes. On est dans un rond-point, Aubervilliers, la Courneuve là-bas, un rond-point. Y'a rien, une baraque à frites. Avec 2-3 mecs en train de boire leur bière. 10-10-10. À un moment donné, on arrive au deuxième rond-point et je dis, écoute, Asna, là. J'allume une cigarette en plus. Et je lui dis quoi? Eh, c'est vidéo gag, t'as vu? Parce que quand il t'a fait une blague, c'est vidéo gag, c'est bon, dis-lui, il sort avec les caméras, ça y est, fin. C'est quelqu'un qui s'est foutu de ta gueule, c'est pas vrai, y a pas de cousin, y a rien. Tu peux enlever ta tenue là, de Dark Vador, là, et si tu veux, je te donne une clope. Elle me dit, non, surtout pas. Moi, je m'arrête parce que je me dis, je suis dans un film, c'est une blague. C'est bon, j'en ai marre de marcher comme une conne, c'est quoi ça? Enfin, je vois un mec. Un truc qui m'a choqué, c'est ses baskets oranges. Je vois Gigi, voilà, vidéo gag. Un gag des baskets oranges, un bob sur la tête. Oh, la trentaine. Basket orange, petite taille, avec un bombers bien gros. Enfin, au niveau du haut du corps, c'était bien gros quand même. Je savais pas c'était qui. Mais des baskets oranges. Et elle qui court. Et qui crie, Abdelhamid, t'es vivant. J'ai eu peur, mais je dis, mais c'est une double bague. Elle connaît ce mec. Elle m'a jamais dit qu'elle connaissait un mec comme ça. Qui porte des baskets oranges. Parce que moi, je suis resté figé sur les baskets. En fait, je regardais physiquement, pour moi, tout était dépareillé. Des baskets oranges, un bombers vert de militaire, là, les anciens bombers, à l'ancienne. Un bob, il n'a rien. Il me tend la main, je dis bonjour, il me serre la main. Je dis, vous êtes qui? Je suis Abdelhamid. Moi, ça me dit pas. Mais Abdelhamid, il y en a partout dans la rue. Donc, je dis, un petit peu plus de renseignements, s'il vous plaît, quand même. Et moi, je le regarde, je dis, mais... Dans sa tête, elle me dit quelque chose. Parce qu'en fait, je me suis remémoré...
Avant, subhanallah, on tractait du jet ski.
Il y a 5 ans, 6 ans en arrière, la vidéo qu'elle m'a fait montrer.
Rempli de bagages, rempli de cadeaux pour aller en vacances.
Je regarde, j'ai...
Maintenant, alhamdoulilah, chabillilah, dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on traque les mourtades.
Vous avez participé à...
Ceux qui nous combattent, qui nous combattent.
Là, il me dit, ouais. Les terrasses, c'est moi. Ah, j'ai pris ma main, je l'ai cachée dans mon dos. J'ai dit, oh mon Dieu, quand je rentre, faut que je me lave à la javel. Il m'a pas dit les terrains, c'est moi avant que je lui serre la main. Parce que moi, j'aurais su au loin c'était qui. Ben, je me serais sauvé, je me serais pris une balle dans le dos, mais je me serais sauvé quand même. Il était armé, ouais. Là, c'est le début de la catastrophe. Il m'a envoyé quelques petites menaces, hein, quand même, encore si jamais je parle. Genre, quand je me lève le matin, je vous vois comme des petits morceaux de pain blanc, j'ai envie de tous vous faire sauter. Qu'on était dans un pays de mécréants. Il m'a fait peur. Il m'a fait très peur. T'as quelqu'un qui est capable de tuer des gens comme ça de sang-froid et vous l'avez en face de vous, il a déjà les mains pleines de sang. Il m'a fait peur. Moi, je veux juste partir, rentrer chez moi, appeler la police, leur dire voilà, le tard, il est là-bas. Il se cache dans un buisson avec ses collègues, aller chercher. Bon, c'est tout ce que je veux faire. J'ai joué avec ma vie sans m'en rendre compte parce que j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de savoir. J'ai posé des questions que j'aurais peut-être pas dû poser. J'ai peut-être trop parlé avec lui. Je lui ai demandé pourquoi ils avaient fait ça. Je lui ai dit que c'était haram, qu'il fallait pas faire ça, que l'islam, elle dit pas de tuer, qu'on n'a pas le droit de tuer. Et il me répond que c'est le cham ou le djihad qu'ils font. Je lui dis non, la France n'est pas un pays qui est en guerre, nous ne sommes pas en guerre. Alors il me dit, il faut venir voir ce que vous avez fait en Syrie. Je lui dis, nous, on n'a rien fait. La Syrie, c'est un pays qui est en guerre. Donc si vous voulez aller faire la guerre, vous rentrez en Syrie. Tellement qu'il était sûr de ce qu'il disait, à un moment donné, je lui dis, mais en tout cas, Stade de France, vous avez raté. Et là, qu'est-ce que j'avais pas dit là? Il aurait pu me tirer dessus, je crois qu'il l'aurait fait. Il commençait à sautiller, c'est là qu'il a commencé à menacer aussi. De toute façon, ils vont continuer, qu'ils n'ont pas terminé, que ben justement, il était là pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de raté et que c'était pas terminé. Quand il a dit ça, je lui dis, mais... Depuis tout à l'heure, vous me dites que vous êtes là pour tuer des mécréants, qu'on est d'un pays de mécréants. Mais parmi les victimes, vous avez tué des musulmans. Et là, il s'énerve encore plus et il me dit c'est des dommages collatéraux. on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais non, c'est pas ça. Et puis d'abord, pourquoi tu as appelé Asna? Puisque si vous êtes si organisé, pourquoi tu appelles une femme? Tu veux lui ramener des problèmes? Non, non, elle aura pas de problème. Vous aussi, vous aurez pas de problème, vous inquiétez pas. Mais je lui ai dit, mais moi, je m'inquiète pas pour moi, je m'inquiète pour vous. Vous allez aller en enfer. Et là, elle me dit que non. C'est le paradis qui l'attend, avec des femmes vierges. Je suis resté très longtemps à discuter avec lui, hein. Peut-être une quarantaine de minutes. C'est ce jour-là que j'ai compris c'était quoi l'adrénaline. On essaye de comprendre, on essaye de savoir. On sait qu'on joue avec le feu. On sait que là, en une minute, tu peux arrêter de respirer. Mais tu dis, je veux pas mourir conne, je veux pas mourir bête, et je veux savoir, et je veux comprendre. Quand tu te dis, je suis là pour éviter qu'il y ait d'autres ratés, et on n'a pas terminé, tu veux savoir. Dans ta tête à toi, tu te dis, c'est pas possible, on peut pas le laisser continuer, on peut pas laisser ces gens-là continuer à faire du mal comme ça. Dans la voiture. Donc là, on voit la ceinture explosive. Il sort son arme à feu. Je panique encore plus et je dis, mais je le dépose où? Parce que là, il a bien compris qu'il en était hors de question qu'il reste dans la voiture avec moi. Et il me dit, vous me redéposez là où c'est qu'on a discuté, quoi. On prend au deuxième rond-point. Donc on le redépose là où il y a sa plante, quoi, son espèce de buisson. Et quand je le dépose là, il me dit de me mettre sous le réverbère, juste en face du fameux buisson. Donc je me gare là et je dis, merde, je peux pas appeler la police, je peux rien faire, il nous tient en joue. Et du buisson, quand Asna s'approchait trop, j'ai vu une main sortir du buisson et la pousser. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, même les arbres maintenant, ils ont des bras. Toi, tu sais pas, toi, quand tu vois une main sortir d'un buisson comme ça, tu te dis, c'est quoi ça?
Dans ce fameux buisson, c'est un grand fourré, hein, qui est en contrebas de l'A86 à Aubervilliers. Des espèces de buissons qui sont au pied des colonnes qui soutiennent l'autoroute. Eh bien, Abdelhamid Abaoud se cache avec Chaki Bakrou, l'un des tireurs des terrasses.
Donc Asna revient, elle monte dans la voiture, elle me dit, ben, on rentre. Au moment où on part, son téléphone sonne et c'est là que on se fait menacer, quoi. Encore. Je commence à râler, je dis, mais tu te rends pas compte, c'est un assassin, il a tué des innocents, mets-toi à la place des victimes, mets-toi à la place des familles des victimes, pour la prendre par les sentiments, j'imagine que ça aurait été ma fille, c'est pas la religion, c'est pas ça. Bon, elle veut rien savoir, elle est dans sa bulle. Arrivée à la maison, elle cherche une planque, mais elle appelle tout son répertoire. Et moi, je pleure. Et je fais montrer des vidéos. Et je dis, regarde ce qu'il a fait. C'est un assassin, c'est des criminels. Ils ne méritent pas de vivre, c'est pas vrai. Ils vont pas aller au paradis. Elle me dit, tu peux pas comprendre. Et je dis, mais si, je peux comprendre. Je peux comprendre que c'est un fou. C'est pas... Ça n'a rien à voir avec des musulmans. C'est pas vrai. Elle appelle tout le monde. Alors au début, elle a appelé une amie à elle, qui habite à Saint-Ouen. C'était des tarés comme eux, là. La fille, elle lui a dit que si elle pouvait le cacher avec son mari, ce sera que dans la cave. Qui peuvent pas le rentrer dans la maison. Et à chaque fois qu'elle raccroche, je dis, mais tu vois pas que t'es en train de ramener des histoires à ces gens-là? Ton cousin, il va tuer tout le monde. Même nous, il va nous tuer. Donc eux, il va les tuer aussi. Il en cavale, elle dit sang. Il y en a certains qui ont dit la vérité. En force de discuter avec Asna, je me suis rendu compte qu'en fait, elle était rentrée dans cette mouvance djihadiste, cette mouvance sectaire. Et j'ai pas vu qu'il y avait beaucoup de filières en Seine-Saint-Denis avec ça, quoi. Alors, ils avaient des contacts à Saint-Ouen, il y avait des contacts dans le 92, il y avait des contacts dans le 91, il y avait des contacts dans le 75, qui fait qu'à certaines personnes qui faisaient partie de cette filière-là, elle leur disait qu'il était là, que c'était lui, qu'il fallait trouver une solution. Elle trouvait personne. Elle continue sa recherche. Après, moi, je vais dormir, sans dormir, parce que tu dors plus, là.
On est le dimanche soir, 2 jours après les attentats. Tout le monde sait ce qui est arrivé. Et Sonia, elle est chez elle. Elle est chez elle, elle n'arrive pas à dormir et elle a peur de sortir.
Le matin, quand t'as dormi une heure et que t'as l'impression d'avoir dormi 5 minutes, j'allume la télé, BFM en boucle, et je vois la tête d'Abaout en Syrie, et je me dis, mais c'est une blague, j'ai vu en chair et en os devant moi. Et j'attends qu'Asnal parte, je dis, mais c'est pas possible, elle va jamais partir. Alors j'attends qu'elle parte, mais elle, pour qu'elle puisse partir, il faut qu'elle ait ce coup de fil de la Belgique qui lui donne le feu vert pour partir rejoindre son cousin. Et au final, elle y retourne toute seule. Moi j'attends que ça, qu'elle parte pour appeler la police. Mais tellement que je suis traumatisé, je sais plus c'est quoi le numéro. Alors je cherche sur internet, 197. Trois chiffres qui avaient disparu de ma tête, tellement j'étais perturbé.
Le 197, c'est ce fameux numéro qui a été mis en place pour dénoncer les terroristes ou les actes terroristes ou la menace terroriste.
J'appelle, quelqu'un décroche, c'était un homme je crois, je me souviens plus mais je pense que c'était un homme. J'arrivais pas à dire à Baoud à l'époque. Et je lui dis, je sais où il est le terroriste, la Boudaoud. Hein. Il me dit, mais de qui vous parle? J'ai dit, le monsieur, la Boudaoud, là. Il est en photo partout dans la télévision des attentats. Et il ne me croyait pas. Alors je lui dis, écoutez, c'est pas compliqué. Hein. Je vais dans mon commissariat de quartier. Parce qu'il coûte faire encore des autres attentats. Et là, ils me disent, non. Rentrez chez vous, il y a quelqu'un qui va vous appeler, vous inquiétez pas. Donc peut-être 3 heures après, je pense qu'ils ont dû se renseigner parce qu'il y a du temps qui a passé. Hein. J'ai un coup de téléphone de 36. Ils m'appellent, ils me disent, voilà, vous avez appelé. Je dis, oui. Il me dit, vous avez vu Salah Abdeslam? Je dis, non, Boudaoud. Il me dit, ça n'existe pas, Boudaoud. Je dis, si, il est à la télé ce matin, vous avez dit, il est présumé en Syrie ou en Grèce. Et là, il me dit « Abaoud ». Je dis « Ça doit être ça, c'est Boudaoud » ou je sais pas quoi. Moi, à cette époque-là, tu m'aurais dit « Abaoud ». J'arrivais pas à retenir, en fait. Il me dit « C'est trop gros pour nous, il y a quelqu'un d'autre qui va vous rappeler ». Je lui dis « C'est trop gros pour vous, vous me faites poireauter. Elle va rentrer, elle est partie le voir, elle va rentrer. Si elle voit que j'ai appelé, ben, je suis morte. Ma famille est morte, mon immeuble est mort parce qu'il a dit qu'il ferait sauter mon immeuble. Mes voisins, ils ont rien demandé à personne, les pauvres. » Non, vous inquiétez pas. Et après, on me rappelle, peut-être une heure plus tard, 45 minutes à une heure plus tard, et c'était la SDAT ou je sais pas quoi là.
La SDAT, c'est la sous-direction antiterroriste, c'est la police judiciaire qui travaille sur les actes terroristes et sur les victimes d'actes terroristes.
Je savais même pas que ça existait ça aussi. Et ils me disent, est-ce que vous pouvez vous déplacer et tout? Ah, je dis, ma voiture, elle a pas d'assurance. Hein. Moi, si je me fais arrêter par la police... Vous inquiétez pas, ils nous ont donné toutes les garanties du monde, donc j'arrive là-bas.
Sonia, elle arrive dans les locaux de la SDAT, sous direction antiterroriste. C'est à Levallois. La SDAT est dans les locaux de la DGSI, donc un grand bâtiment protégé, évidemment, avec des caméras partout, des bureaux de police modernes, hein, puisque c'est un bâtiment moderne. Mais il y a les salles où on interroge des gens qui sont au sous-sol, isolés, insonorisés, c'est aseptisé. C'est rang comme dans les films américains, quoi. Une table, 2 chaises, une vitre sans teint derrière laquelle des personnes peuvent écouter. 3 jours après les attentats, la SDAT, la DGSI, ça rentre, ça sort, les voitures, tous les journalistes sont devant, les caméras de télévision. C'est ici que ça se passe. On échange des infos, les ministres se déplacent, les commissaires de police vont et viennent. C'est vraiment le cœur du réacteur nucléaire.
Je m'en rappellerai toute ma vie. C'est des images qui ne me quitteront jamais. Ils m'ont fait asseoir dans une espèce de hall. Il y avait une table basse avec plein de sachets, comme les sachets de pain là où on met le pain là, sachets marron là, et des scellés dessus. Et j'ai vu un jeune homme arriver, grand, blond, bien habillé. Il cherchait sa besace. Il était sur les terrasses. Quand ils sont fait tirer dessus, il a égaré sa besace avec ses clés dedans, à l'intérieur et tout. Ça m'a choqué. C'est une image que je garderai à vie. C'est comme si en fait. Moi-même, j'avais perdu mon fils ou ma fille, ou j'avais perdu un être cher. C'est comme si qu'on m'avait arraché un morceau de moi aussi dans les attentats. C'est comme si les terroristes qui m'avaient atteint aussi. Comment on peut vivre après avoir subi un tel traumatisme? J'avais envie de lui dire, mais je compatis avec vous. En une fraction de seconde, des fous, ils ont détruit la vie de tant de personnes. Après, il y a une dame, elle est venue me chercher, elle m'a dit on va dans les toilettes. J'ai dit pourquoi faire? Elle m'a dit faut que je vous fouille. J'ai dit mais attends. Là, je voulais faire demi-tour. J'ai dit mais c'est du foutage de gueule. Il y a des gens qui sont morts. Le garçon, il a dit va tuer des autres gens. Et ils sont en train de perdre leur temps avec moi à me fouiller. Je sais pas, je comprends pas. Je me suis raisonné intérieurement et j'ai dit non, mais ne rien dire, c'est contribuer. Et je peux pas. Je veux pas être associé à ça. Je me remettais dans la tête le visage de ce jeune homme-là en me disant, mais regarde lui ce qu'il a vécu. Au moins pour lui, fais-le. Va jusqu'au bout de ta démarche. Moi, je trouvais que c'était très lent. Ça réagissait pas assez vite. On avait perdu trop de temps. Parce que j'ai appelé en début d'après-midi quand même. Là, on arrive en début de soirée. On m'amène dans un bureau pour m'interroger. Donc, la classique, hein. Nom, prénom, date de naissance, adresse, vous avez vu quoi? J'ai vu Boudaoud, je lui disais. Hein. Mais le policier me dit, mais c'est pas Boudaoud, c'est Abaoud. Je lui dis, je m'en fous, j'ai vu le terroriste. Elle me croit pas. Et la petite dame, elle me dit à un moment donné, mais il n'y a pas quelque chose qui vous a choqué? Je la regarde, je lui dis, mais si, je lui dis, il avait des baskets oranges. Je lui dis, mais vous vous rendez compte, un terroriste avec des baskets oranges? Mais comment on n'a pas pu le voir? Et là, j'ai senti cette effervescence autour de moi et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai bien pu sortir encore comme connerie?
Il portait des baskets oranges. Tilt. Tous les policiers s'arrêtent de parler. Ils savent qu'ils ont en face d'eux une personne qui leur dit la vérité. Elle sait où est Abaoud. La personne qu'elle a rencontrée, c'est bien Abaoud. Pourquoi? Parce que eux, sur des vidéos, des images qui ont été captées par des caméras, on voit un type avec des baskets oranges et l'information n'est pas sortie dans la presse. Donc la seule qui le sait, c'est Sonia.
Et je suis rentré dans une crise de panique parce que j'ai vu que mon téléphone n'avait plus de batterie. Et je leur ai dit, il faut impérativement que je parte. Ils m'ont dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mon téléphone n'a plus de batterie. Asna, c'est sûr, à 300%, elle va m'appeler. Et si elle voit que je réponds pas, c'est bon. Mon immeuble, il saute, ma famille avec. Mes voisins et tout. Et ben, ils ont vraiment trouvé un chargeur. Hein. Et comme si j'avais réellement pressenti les choses, c'est Asna qui m'appelle. T'es où? Je vais pas tarder à rentrer. Je dis, mais toi, t'es où? J'arrive à la maison, c'est bon, on a bien discuté. Et je veux la faire parler, mais le policier me dit d'éteindre le téléphone. J'ai dit, Asna, attends, je te rappelle. Je raccroche. Alors j'avais donné le numéro d'Asna au 36. Ils l'ont noté à l'envers. Ils avaient mis quelqu'un d'autre sur écoute à sa place. Donc là, devant le commandant, là, je regardais bien ce qu'il notait. Hein. Vous notez bien là. Là, vous êtes en train de me dire que depuis 15 heures, elle aurait pu être sur écoute. Vous me dites, vous avez mis quelqu'un d'autre sur écoute à sa place. J'avais l'impression de rêver. Vous vous rendez pas compte, elle va rentrer, elle me trouve pas. Elle va savoir que je suis parti à la police. Il me dit, non, on vous a préparé un texte. Vous dites que vous êtes parti au cinéma. Il y a agent 007 qui passe au cinéma, là, je sais pas quoi, là, il y avait... Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais je déteste le cinéma. Et Asna sait que je déteste le cinéma. Et agent 007, franchement.
Et le film d'espion, Sonia, elle fait plus qu'aller le voir. Elle fait plus que le raconter, elle va le vivre, elle construit le scénario.
Ah, il m'avait dit, vous allez y aller acheter une bouteille d'alcool, vous la faites boire et vous la faites parler. Alors je les ai regardés, je leur ai dit, écoutez, je vous ai dit tout ce que je savais. Maintenant, moi, je rentre chez moi. Voilà l'adresse où ils sont, là. Si vous voulez, je vous accompagne. Mais il faut les arrêter maintenant. Je leur ai dit, on s'est jamais vu, on se connaît pas. Et moi, il n'y a pas de problème. Ok, pas de souci. Adjugé vendu, j'ai dit, même déposition, là, vous déchirez ça. Hein. Vous ne me mettez pas dans des histoires hein, comme ça. Oui, hein. Vous inquiétez pas. Et il me donne son numéro. Et il me dit, mais je sais que vous allez m'appeler. Mais je dis, mais je vais pas vous appeler. Je vous ai donné une adresse, un numéro de téléphone. Le buisson, là, le rond-point. Moi, je pensais qu'ils allaient les cueillir là-bas. Et je repars chez moi.
À partir de là, les enquêteurs commencent à vérifier, à recouper les informations que leur a données Sonia. Et le temps presse, ça urge vraiment.
Je vais, j'achète une bouteille d'alcool, je rentre, Je dis à Asna, viens, on va prendre un petit apéro et tout. Ah purée, cette soirée-là, c'était la plus pire, je crois. Puis elle se met à pleurer, puis je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Puis elle me dit, éteins ton téléphone. Ah, parce que les terroristes, ils sont forts, hein. Elle lui avait dit d'éteindre son téléphone dès qu'elle arrivait à la maison, d'éteindre les téléphones de tout le monde, que si elle devait parler, il fallait pas qu'il y ait personne à côté d'elle, qu'elle sorte de l'appartement. Ah ouais, ils sont très très forts, hein. Je lui dis, mais tu vois pas qu'ils te racontent des conneries, ils ont l'impression qu'ils sont aux États-Unis, là, les films de 007 que je viens d'aller voir au cinéma, là. Elle me dit, t'aimes pas le cinéma? Je dis, ouais, mais là, je suis obligé d'aller voir... c'était James Bond. Elle commence à pleurer, à me raconter. Il va mourir. Mais qui meurt? C'est la première fois que je me suis senti pas humaine. Parce que même notre pire ennemi, normalement, on lui souhaite pas la mort. Mais là, je dis, mais il a qu'à mourir. De toute façon, quoi qu'il advienne, il va aller en enfer. Il a tué des gens. Et là, elle me dit, non, on va y aller faire un attentat. C'est bon, c'est prévu. La défense, la crèche, le centre commercial, le commissariat de police. Ah purée, là, j'ai dit ça et c'est la fin des haricots. Je cherchais partout le numéro du policier qu'il m'a donné. Mais là, c'est moi, j'ai fait les chiffres à l'envers. Quand je me suis calmé un petit peu, parce que j'ai vomi, hein. J'ai repris conscience, j'ai retrouvé le numéro, j'ai refait le numéro à tous les sens du terme, mais en fait, je m'étais trompé dans les deux numéros de la fin. Et quand j'ai appelé le commandant, je lui ai dit, voilà, il va y avoir ça. Et là, ils ont prévu de faire un nouvel attentat. Il m'a dit la date, j'ai dit, non, ça y est, c'est bon. Je vous ai dit d'aller les arrêter. Il m'a dit, on peut pas, parce que c'est l'autoroute, il y a des gens, il va y avoir des victimes. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ils sont dans un buisson. Tu prends un char, c'est bon, il n'y a plus de buisson. Terroriste avec eux. Et je lui dis, mais elle va leur trouver une planque, là. Parce qu'elle a un rendez-vous avec un mec pour trouver la planque. Je leur ai donné la chronologie du jour, de tout ce qu'ils faisaient. Chaque fois, j'appelais le commandant, voilà, là, cette heure-ci, elle doit aller chercher un mandat pour eux. Ils ont suivi une autre femme à la poste. Comment tu peux confondre une jeune fille de 26 ans avec une dame de 40 ans qui va chercher ses enfants à l'école? C'est un peu gros. J'ai dit, mais c'est pas possible. La police, c'est mort. Tu peux rien faire avec eux. Faut que j'aie cette adresse, cette fameuse adresse. Elle m'a dit, je dois aller dormir là-bas parce que ce soir, il va égorger l'hébergeur, le fameux Jawad. Oui, parce qu'en fait, Jawad avait compris qu'il hébergeait des terroristes, il voulait les foutre dehors. Mais c'était trop tard. Donc, Jawad devait se faire égorger le soir même. Donc, pour qu'il empêche d'égorger Jawad... Après, elle m'a peut-être pris par les sentiments, parce que c'est très bien que je ne supporte pas ça. Il faut que j'aille là-bas pour le raisonner. Je lui ai dit, d'accord, ok. Mais, je lui ai dit, je viens de chercher. Donne-moi l'adresse. Asna nous a dit qu'elle l'avait jeté à la poubelle. Comme des cons, on est parti, on a vidé des containers. J'ai fait rentrer un de mes enfants avec son misérable corps pour qu'il rentre dans les containers. Il est sorti avec... il puait la poubelle. Le gardien, il nous est tombé dessus. Qu'est-ce que vous foutez dans les poubelles? J'ai perdu mes clés. Je les ai jetés à la poubelle. Et j'ai finalement trouvé l'adresse. Elle était chez moi dans un vase. J'ai appelé. J'aurais donné l'adresse. 8 rue du Courbillon. Ah, j'ai même donné le code. Pour qu'il rentre doucement. Ben non, y a rien à faire. Ils ont tout pété. Quand j'ai un problème, j'appelle pas la police. Je me dis, je vais leur donner l'adresse là-bas. Ils vont aller de l'autre côté, mais vraiment, c'est pas pour dire, mais c'était quand même folklorique. Hein. Moi, je mets ça sur le fait qu'il y avait beaucoup d'infos et aussi la fatigue. Le traumatisme aussi, parce qu'ils sont rendus sur les terrains, ils sont rendus au Bataclan, ils sont tombés sur des scènes d'horreur.
Comme je vous le disais au début, Sonia, elle est bénévole, elle pense aux autres, elle aide les gens, elle fait des maraudes. Et ce soir-là, le 17, hein, on est mardi, 5 jours après les attentats, Sonia continue sa vie, presque normalement, elle part faire une maraude.
Et je dis à mes SDF, surtout, vous restez pas traînés, hein, là. Surtout, vous trouvez un abri, là, vous restez pas là. Alors, on avait une tournée qui devait sortir à Saint-Denis, j'ai dit, faut l'annuler. il faut prévenir les SDF qui s'éloignent de Saint-Denis, parce que c'était là-bas qu'ils étaient les terroristes. Le commandant de police m'a dit qu'ils allaient attaquer dans la nuit. Donc je dors pas. Je rentre de ma maraude à minuit et demi, et je dors pas.
Dans cet immeuble, il y a Abaoud, mais il n'y a pas seulement Abaoud. Il y a un autre homme, et puis il y a une femme. Et cette femme qui crie à la fenêtre. Ne tirez pas, ne tirez pas. Dis à ton copain qu'il se rende, c'est pas mon copain, ne tirez pas. Eh bien, cette femme, c'est Asna.
Je l'ai appelée, j'ai envoyé des messages, son téléphone était coupé. Elle est avec son cousin.
C'est l'assaut qui est mené par le raid, avec énormément de coups de feu, des explosions. Dans cet appartement de Saint-Denis, il y a trois personnes. Abdelhamid Abaoud, l'instigateur des attentats du 13 novembre, Chaki Bakrou, l'un des tueurs des terrasses parisiennes, et Asna Aïd Boulassen, la fameuse cousine d'Abaoud, Asna, l'amie de Sonia. L'assaut mené par le raid va durer 7 heures. Ça tire, en rafale, des coups de feu sélectifs, des rafales encore, des explosions, il y a des cris. Et c'est Chaki Bakrou qui déclenche sa ceinture explosive et qui va tuer ceux qui sont avec lui dans l'appartement, Abaoud et Asna.
Elle manque, hein, de toute façon. En garde à vue, quand on m'a demandé est-ce que si elle aurait été vivante, comment j'aurais réagi, j'ai dit que de toute façon, elle aurait été vivante, je serais quand même parti la voir en prison. On souhaite la mort à personne. Et j'aurais préféré pas qu'elle soit morte. Qu'elle assume ses actes.
Depuis, Sonia, elle a changé de vie. Elle ne peut plus vivre comme elle a vécu jusqu'ici. C'est la première personne en France à avoir bénéficié du statut de témoin protégé qui a été créé en 2016. Ça veut dire que c'est une personne qu'on va loger quelque part, qu'on va protéger, qui peut éventuellement changer de nom. On ne va pas dire si elle l'a fait ou pas. Qui peut contacter tout de suite des services de police qui vont arriver immédiatement. Ça a été créé en France. Mais ce n'est pas encore opérationnel comme aux États-Unis ou comme en Italie, parce qu'en Italie, il y avait les lois main propre et il fallait protéger les gens qui dénonçaient la mafia. En France, ce n'est pas encore aussi élaboré. Mais c'est vrai que Sonia est une femme protégée, la première en France à être protégée comme ça.
Bah, c'est sûr que c'est des gens avec qui on ne va pas jouer. Hein. Il y a le frère Asna aussi qui est dehors.
Il n'a pas de raison de vous en vouloir.
Quand même, si. Et puis, il y a ses partisans.
Pas de regret d'avoir fait ça ?
Aucun, je referai. Faut jamais regretter ce qu'on fait. Et pour moi, je pense que celui qui voit et qui se tait, ben, il est tout aussi lâche que celui qui commet. Je peux pas cautionner ça. Moi, au moment où j'ai appelé la police et que je suis rentré dans le Valois-Perret là-bas, j'attendais rien en retour. Hein. Eux-mêmes le savent. Hein. Je leur ai dit clairement, on s'est jamais vu, on se connaît pas. Voilà, faites votre travail. Moi, j'ai rempli mon devoir de citoyen.
C'est ça qui est fou. Quand elle était entendue, bien sûr, elle était entendue sur procès verbal. On lui avait promis que son nom ne serait pas donné. Mais ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible d'entendre quelqu'un et de lui dire « Bon, vous n'êtes pas Dominique Rizet, vous êtes X. » Et le policier qui l'a fait parler lui dit « Ne vous inquiétez pas, personne n'aura votre identité. » Il ne peut pas lui dire autre chose. S'il lui dit « Mais tout le monde va avoir votre identité, elle ne parle jamais. » Donc, il la rassure, mais cette promesse, il ne peut pas la tenir. Et d'ailleurs, est-ce que la France peut tenir sa promesse de protéger Sonia ? On vous pose la question, vous n'allez pas répondre parce que vous ne pouvez pas répondre, mais il faut qu'on vous la pose. Comment vous vivez aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes protégé? Est-ce que vous avez changé de nom? Est-ce que vous êtes toujours en France? Est-ce que...
Je ne peux rien dire sur tout ça. Ça reste secret. Enfin, c'est pour ma sécurité aussi. Je ne suis pas toute seule. J'ai une famille derrière moi et ça me rendrait triste qu'il arrive encore quelque chose.
Sonia est venue témoigner au procès des attentats du 13 novembre, le procès qu'on a appelé V13, vendredi 13. Elle a témoigné en visioconférence. Donc on a entendu sa voix dans la salle d'audience, déformée. On n'a pas vu son visage, on a vu une silhouette. Et on a entendu ce qu'elle avait à dire. Et on a entendu comment elle a permis à la police et à la justice d'aller chercher les auteurs des attentats qui s'apprêtaient à continuer. C'est-à-dire que Abaoud et Akrou s'étaient achetés des costumes pour aller à la Défense, dans le quartier d'affaires de la Défense, soit se faire exploser avec les ceintures qu'ils avaient sur eux au moment de l'assaut du raid, soit tuer des gens avec leurs pistolets. Mais en tout cas, ça ne s'arrêtait pas là. Il y aurait eu le Stade de France, les terrasses, le Bataclan et puis le quartier de la Défense. Elle est terrible, cette question. Est-ce que c'est la dernière fois que Sonia aura à voir avec cette histoire? Souhaitons-le, parce que si elle avait encore à voir avec cette histoire, ce serait pour un rendez-vous dramatique. Et il ne faut pas que ça arrive. Sonia, il faut la protéger. Donc il ne faut plus qu'elle n'ait jamais rien à voir avec cette histoire.
Parfois ça va, parfois ça va pas. C'est comme tout le monde, hein. Il y a l'effet boomerang. Hein. Parfois ça revient, parfois ça ne revient pas. Quand on arrive près des fêtes de fin d'année, quand on arrive au mois de novembre, eh ben, ça ne va pas du tout. Parce que je repense à toutes ces victimes. Je repense aux familles des victimes. Il y a plein de choses qui me reviennent en tête. Je mets ma vie personnelle de côté parce que je me dis que j'ai pas le droit de souffrir parce qu'ils souffrent plus que moi. Mais ce serait injuste de ma part de me plaindre. Or qu'eux, ils ont perdu beaucoup. C'est pas que j'ai sauvé des vies, moi, pour moi, j'ai fait mon devoir de citoyenne, c'est normal. Pour moi, c'est logique. J'aimerais pas être héroïsé. C'est eux les héros dans cette histoire. C'est ceux qui sont restés.
Vous venez d'écouter L'Instant Où, un podcast BFM TV, incarné par Dominique Rizet. Réalisation Yves Pulici et Laura Dulieu. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur le site et l'application BFM TV et toutes les plateformes d'écoute.